Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur la radio Cause Commune 93.1 FM en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. La radio dispose également d'une application pour téléphone mobile que vous pouvez télécharger sur toutes les bonnes boutiques et notamment le magasin libre F-Droid. Merci à vous d'être avec nous aujourd'hui. La radio dispose également d'un webchat, donc utilisez votre navigateur, allez sur causecommune.fm, vous cliquez sur chat et vous pouvez nous rejoindre sur le salon web dédié à l'émission pour nous poser des questions, faire des remarques. Et également, vous pouvez intervenir à l'antenne en direct en appelant le 09 50 39 67 59. Donc n'hésitez pas surtout à appeler. Nous sommes mardi 22 octobre 2019, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, son délégué général. Le site web de l'April, c'est april.org. Et vous y retrouvez d'ores et déjà une page consacrée à l'émission avec des références que nous mettrons à jour, évidemment, après la mission. N'hésitez pas également à nous faire des retours via les points de contact. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Alors, on va passer au programme de l'émission. Nous allons commencer dans quelques secondes par la chronique de Noémie Berger qui portera sur le droit au déréférencement. D'ici 10-15 minutes, nous aborderons notre sujet principal qui portera sur les espaces publics numériques et les logiciels libres. Et en fin d'émission, nous aurons la chronique de Vincent Calam sur le thème « Google est ton ami ». À la réalisation de l'émission aujourd'hui, Patrick Creusot. Bonjour Patrick.
Bonjour tout le monde et bonne émission.
Merci Patrick. Alors comme à chaque émission, on va vous poser un petit quiz et on vous donnera les réponses au cours de l'émission. Donc première question. Lors de l'émission de la semaine dernière, 15 octobre 2019, nous étions avec le collectif Regards Citoyens. Vous connaissez sans doute les sites nosdéputés.fr et nossénateurs.fr proposés par ce collectif. Mais saurez-vous citer leur autre site qui facilite le suivi des travaux législatifs? Deuxième question. Une de nos invitées aujourd'hui travaille au carrefour numérique de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Savez-vous de quand date le premier événement logiciel libre d'importance à la Cité des Sciences et de l'Industrie? Les réponses en cours d'émission et tout de suite, place au premier sujet. Alors, évoquer le code à la main, une règle de droit ou un procès en lien avec les œuvres, les données, les logiciels ou les technologies, c'est la chronique In Code We Trust, dans le code nous croyons, de Noémie Berger, avocate au cabinet Dune. Bonjour Noémie.
Bonjour Fred.
Alors, aujourd'hui, tu souhaites nous parler du droit au déréférencement.
Exactement. Le thème portera sur le droit au déréférencement qui concerne les moteurs de recherche. Donc, effectivement, cette émission est assez en lien avec les moteurs de recherche puisqu'il y aura la chronique de Vincent, Google est ton ami. Mais alors nous, on va s'intéresser au droit au déréférencement tel qu'il a été prévu dans le cadre de la réglementation européenne et puis également précisé avec certaines décisions de justice de la Cour de justice de l'Union européenne. Donc le droit au déréférencement, la première chose qui vient à l'esprit, c'est déjà de se demander ce qu'est le déréférencement. Alors j'ai fait une petite recherche dans le dictionnaire de l'Académie française ce week-end sur la notion de déréférencement. Et il n'y a pas de réponse, pas de définition. A contrario, on trouve une définition du référencement. Alors souvent, c'est le fait de référencer un produit, donc inscrire un produit sur une liste, référencer un site, donc inscrire un site dans une base de données de moteur de recherche. Souvent, on parle du droit au déréférencement et vient se mélanger aussi la notion de droit à l'oubli, droit à l'effacement. Alors, l'oubli, quant à lui, il est défini comme la perte d'un souvenir, le fait d'ignorer quelque chose. L'effacement, c'est l'action d'effacer. Pour le déréférencement, en fait, il faut voir les choses assez simplement. Le déréférencement, il s'applique principalement aux moteurs de recherche. C'est la suppression des liens dans les pages de résultats. Alors évidemment, c'est une suppression de liens et pas une suppression des résultats en eux-mêmes. La réglementation européenne aborde la notion de droit à l'effacement, donc qui est plus large que le droit au déréférencement qui s'applique aux moteurs de recherche. C'est depuis 1995, dans la fameuse directive du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques quant à leur traitement de données, qu'on trouve dans l'article 12 une première référence à l'effacement, puisque cet article prévoit que chaque État membre de l'Union européenne garantit à toute personne le droit d'obtenir l'effacement de ces données lorsque le traitement n'est pas conforme à la directive, notamment parce que ces données sont incomplètes ou inexactes. Donc c'est un premier pas dans cette construction du droit à l'effacement. Ce droit à l'effacement, en réalité, il a été vraiment abordé dans une décision de la Cour de justice de l'Union européenne, donc c'est l'institution juridictionnelle de l'Union européenne qui a pour mission d'interpréter le droit de l'Union à la demande des juges nationaux, parmi d'autres missions évidemment, et la CJUE a apporté des précisions cette fois-ci sur le droit à l'effacement, mais principalement lorsqu'il s'applique aux moteurs de recherche, donc le droit au déréférencement. C'est un arrêt du 13 mai 2014 qui concernait Google Espagne, qui en fait visait un individu qui avait porté une réclamation devant une autorité de contrôle espagnole parce qu'à chaque fois qu'on introduisait son nom dans le moteur de recherche de Google, eh bien, il retrouvait dans les résultats des liens vers les pages d'un quotidien avec des articles de 1998 qui évoquaient une saisie qui avait été pratiquée en recouvrement de dettes de sécurité sociale sur ses biens. Donc, il souhaitait faire disparaître ces liens et Google avait refusé la suppression. Donc, ce qui s'est passé à la suite de ça, c'est que la CJUE a été saisie. Et dans cet arrêt qui est quand même assez majeur en la matière, la CJUE nous indique qu'en fait, l'exploitant d'un moteur de recherche va collecter des données à caractère personnel, il va les enregistrer, il va les organiser et que cela constitue un traitement de données à caractère personnel au sens de la directive et que l'exploitant d'un moteur de recherche est un responsable de traitement qui effectue des traitements de données à caractère personnel. Donc il est soumis au droit de la protection des données et donc il doit respecter évidemment les obligations de cette matière. Ce qui signifie que saisi d'une demande de déréférencement, eh bien, les moteurs de recherche doivent examiner si le requérant en question dispose d'un droit à ce que l'information relative à sa personne ne soit plus liée à son nom dans une liste de résultats. Il peut le faire sur différents fondements, notamment l'article 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, nous dit la CJUE, donc elle protège de droit le respect de la vie privée et familiale et la protection des données à caractère personnel. La CJUE met quand même déjà une limite, puisqu'elle nous explique que l'exercice de ce droit, eh bien, il n'est pas absolu, et que dans certains cas, les moteurs de recherche eh bien, peuvent refuser la demande de déréférencement au motif qu'il existe des raisons particulières, comme par exemple le rôle qui est joué par la personne dans la vie publique, ou encore l'intérêt prépondérant du public à avoir accès à l'information en question, qui justifie finalement l'ingérence dans les droits fondamentaux de cette personne. Depuis 2018, on en a tous entendu parler, le règlement général sur la protection des données eh bien, a bouleversé la matière de la protection des données à caractère personnel, et il se trouve que, eh bien, dans son article 17, le règlement consacre tout un article au droit à l'effacement, qu'il désigne également comme le droit à l'oubli. Donc l'article 17, il vient nous apporter finalement des précisions hein, qu'on attendait un petit peu sur le droit à l'effacement. Alors il consacre le fait que toute personne a le droit d'obtenir l'effacement de ses données dans les meilleurs délais. Il explique dans cet article et détaillé en fait les obligations, les motifs plutôt, qui justifient un effacement des données à caractère personnel. Donc il y en a 6. Le premier, c'est que les données eh bien, ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement. Deuxième possibilité, la personne concernée va retirer le consentement. Troisième possibilité, la personne concernée va s'opposer au traitement. Quatrième possibilité, les données font l'objet d'un traitement illicite, donc c'est-à-dire que le traitement à la base était déjà, n'avait pas de base juridique, donc ça justifie qu'on puisse demander l'effacement de ces données. Ensuite, ça peut être aussi lorsque les données ne respectent pas une obligation légale. Donc dans ce cas-là, eh bien, il faut qu'elles soient effacées. Et au dernier point eh bien, qui justifie l'effacement des données, ce sont des données qui concernent les enfants. Et l'article 17 nous précise également dans quelles conditions un responsable de traitement peut refuser d'effacer les données, notamment si le traitement est nécessaire à l'exercice du droit à la liberté d'expression et d'information, évidemment. Autre condition qui permet de refuser un effacement de données, c'est si le responsable du traitement doit mener ce traitement pour respecter une obligation légale ou exécuter une mission d'intérêt public. Troisième critère, c'est que s'il existe des motifs d'intérêt public dans le domaine de la santé publique. Et puis enfin, si le traitement est nécessaire à des fins archivistiques, dans l'intérêt public ou à des fins de recherche scientifique ou historique, ou enfin s'il est nécessaire à l'exercice des droits de la défense. Donc cet article 17, il est également applicable évidemment au déréférencement pour les moteurs de recherche. Dans l'actualité, nous avons deux décisions récentes de la CJUE qui sont encore venues compléter toutes ces dispositions et qui sont venues préciser les portées et les limites aussi du droit au déréférencement pour les moteurs de recherche. Ce sont deux décisions qui datent du 24 septembre 2019, donc qui sont toutes proches, et qui ont été rendues sur requête du Conseil d'État. Ce qu'il faut noter dans ces décisions, c'est que les faits étaient à l'époque soumis à la directive de 95 et non RGPD. Mais la CJUE, qui rend ses décisions postérieurement à l'entrée en vigueur du RGPD, a quand même fait quelques citations de l'article 17. Donc elle rappelle également les règles applicables à ce jour. Dans ces deux affaires, eh bien, il y a eu plusieurs choses marquantes. La première, c'est qu'à la base, en fait, il y avait eu une mise en demeure de la CNIL à l'encontre de Google, que Google avait refusé d'appliquer pour en fait supprimer, la CNIL a demandé à Google de supprimer de la liste de ses résultats, en fait des liens, évidemment, et la CNIL avait demandé à ce que cette suppression concerne toutes les extensions de nom de domaine du moteur de recherche de Google. Et donc ce que Google avait refusé. Et ici, en fait, la Cour va souligner que de nombreux États tiers n'ont pas de droit au déréférencement ou adoptent une approche différente. Donc les États tiers, ce sont les États qui ne sont pas dans l'Union européenne. La Cour relève que l'article 17 ne fait pas de mise en balance pour ce qui concerne la portée d'un déréférencement en dehors de l'Union européenne. Et donc elle va préciser la portée géographique du déréférencement en jugeant que les moteurs de recherche qui font droit à une demande de déréférencement, eh bien ils doivent le faire non pas sur l'ensemble de leurs versions, donc non pas mondialement, mais uniquement sur les déclinaisons européennes de leurs moteurs. Alors, il faut quand même noter que la CJUE ne ferme pas définitivement la porte à la possibilité pour une autorité de contrôle telle que la CNIL d'obliger un moteur de recherche à un déréférencement mondial, mais dans des cas exceptionnels. Et à ce jour, on n'a pas encore de décision de justice qui illustre ce que sont ces cas exceptionnels. Ça, c'est le premier apport de ces arrêts. Le deuxième apport, il concerne les conditions de mise en œuvre du droit au déréférencement, puisque la CJUE cite un certain nombre de critères qui permettent à un moteur de recherche eh bien, d'apprécier si la demande de déréférencement est fondée. Donc pour cela, je vous renvoie aux arrêts, puisqu'il y a un certain nombre de critères tels que la notoriété de la personne, l'âge de la personne, la nature des informations référencées. Et enfin, autre point marquant de ces décisions, c'est que la CJUE confirme l'application du droit au déréférencement pour des liens qui pointent vers des catégories particulières de données, à savoir des données sensibles. Donc là, évidemment, il faut faire preuve pour les moteurs de recherche de vigilance, puisque ces données sensibles sont quand même assez spécifiques. Donc en pratique, on demande aux moteurs de recherche de déréférencer un résultat. Il existe des formulaires, hein, les moteurs de recherche ont mis en place des formulaires en ligne où on leur écrit. S'il y a un refus, on peut le contester devant la CNIL ou devant les juridictions compétentes. Bon, pour information, en 2018, la CNIL a quand même reçu 373 plaintes qui portent sur des demandes de déréférencement. Il est très probable que ce nombre augmentera dans les années à venir. Voilà, j'en aurai terminé de mes explications sur le déréférencement.
Merci Noémie. Alors tu as cité beaucoup de références évidemment et j'invite les personnes qui écoutent l'émission à se rendre sur le site de l'April, april.org et sur le site de la radio causecommune.fm pour retrouver toutes les références que tu as citées. Et nul doute qu'on reviendra sur ce sujet qui évidemment va prendre de plus en plus d'importance dans les années à venir. Mais écoutez, c'était la chronique de Noémie Berger, In Code We Trust. Je te souhaite une belle journée et puis au mois prochain.
Merci, à très bientôt.
Alors on va faire une pause musicale. Nous allons écouter The Crosses of Anna par Slensha et on se retrouve juste après. Belle journée sur Cause Commune.
Cause Commune. Thank you.
Nous venons d'écouter The Crosses of Anna par Slingshot. C'est un très beau morceau disponible sous licence Creative Commons, partage dans les mêmes conditions et vous retrouverez les références sur april.org et sur causecommune.fm. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 FM en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Nous allons passer maintenant à notre sujet principal. Nous allons poursuivre donc avec le sujet principal qui va porter aujourd'hui sur les espaces publics numériques et les logiciels libres. Alors nos invités, Mélissa Richard, médiatrice numérique au Carrefour numérique de la Cité des sciences et de l'industrie. Bonjour Mélissa.
Bonjour.
Et par téléphone, Manuela Gernard-Hert, responsable du pôle multimédia de la bibliothèque francophone multimédia de Limoges. Bonjour Manuela.
Bonjour.
Alors, donc nous allons parler des espaces publics numériques et en fait, on va définir assez rapidement le terme parce qu'en préparant l'émission, je pensais que beaucoup de gens connaissaient ce terme. Et en fait, on m'a dit que ce terme n'était pas forcément très connu. Mais d'abord, on va commencer par une petite présentation personnelle rapide de votre parcours. On va commencer donc par Mélissa.
Je travaille au Carrefour numérique, je suis médiatrice numérique. Donc, j'y travaille depuis, on a dit quoi tout à l'heure, 6 ans. Voilà, avant ça, j'ai travaillé à la Quadrature du Net. Je faisais notamment l'animation de communautés. Une association de défense des libertés à l'ère du numérique. Et pour en arriver là, j'ai fait des études de droit et de journalisme. Donc je ne travaille plus absolument pas dans mon domaine d'études.
D'accord. Et toi, Manuela ?
Alors moi, je travaille à la bibliothèque francophone multimédia de Limoges depuis 1997, donc ça remonte à quelques années. J'ai fait des études d'histoire et en fait, ça n'a pas vraiment abouti à ce que je fais maintenant puisque je m'occupe en fait depuis 1997 à la bibliothèque des ressources numériques, des ouvrages sur l'informatique et de l'animation à l'espace multimédia, donc accueil du public, animation d'ateliers, coordination d'animation. Et depuis janvier 2017, j'ai pris la responsabilité du pôle multimédia de la BFM.
D'accord, merci. Voilà. Alors déjà, première question, j'ai choisi le titre, le terme espace public numérique pour essayer de recouvrir des réalités en fait assez différentes, on va le voir tout à l'heure. Mais on peut peut-être commencer par définir ce qu'est selon vous un espace public numérique, Manuela.
Alors, pour moi, un espace public numérique, ça recouvre plusieurs réalités. Nous, à la Bibliothèque francophone multimédia, on l'appelle espace multimédia. On fait de la formation, on fait de l'accueil de public pour l'accès à Internet, on fait des animations. Donc, c'est vrai que ça recouvre quand même plus de choses. En plus, nous, on est en train d'évoluer au niveau des services qu'on propose aux usagers. Donc, ça va de plus en plus ressembler quand même à un tiers-lieu.
D'accord. Voilà. Et de ton côté, Mélissa, comment tu présenterais ça ?
Chez nous, c'est un peu, c'est pareil, c'est assez complexe parce qu'il y a aussi une bibliothèque à la Cité des sciences et de l'industrie et qui a aussi des activités autour de la médiation numérique, notamment un espace auto-formation. Et du coup, eux aussi sont un espace public numérique. Nous, on a un Fab Lab, un Living Lab, j'imagine qu'on définira tout ça après.
Oui.
Et c'est pas forcément à ça qu'on pense quand on pense à un espace public numérique. Enfin, moi, en tout cas, dans mon imaginaire, c'est un endroit où on va avoir accès aux ordinateurs, on va pouvoir soit s'auto-former, soit suivre des formations. Or, nous, c'est pas tellement ça qu'on propose. On propose plutôt un espace, effectivement, où les gens peuvent venir apprendre par eux-mêmes. On essaye de sortir du savoir descendant, de la transmission de savoir descendante. Et voilà, donc on est vraiment beaucoup plus proche de la définition des tiers-lieux, même si... J'ai quelques petites choses à redire aussi sur la définition des tiers-lieux. Donc c'est un peu mixte quoi, comme espace.
D'accord, donc c'est un espace physique. Alors pour répondre à une question, parce que c'est Tanguy, je vais le citer, qui ce midi à table me posait la question de savoir ce que c'était un espace public numérique, parce qu'il ne voyait pas trop ce que c'est. Donc c'est à la fois un lieu physique, et puis c'est aussi des personnes qui permettent... Donc il y a une partie initiation à l'informatique, et puis il y a une partie aussi, et notamment plus spécifiquement dans les deux structures invitées, sur le fait de faire par soi-même, d'apprendre par soi-même. Ce n'est pas uniquement d'utiliser en libre-service des ordinateurs, c'est aussi de partager, de co-créer des choses, et de progresser dans sa compréhension de l'informatique. Est-ce que c'est à peu près ça ?
Oui, je dirais que c'est ça. Nous, on a quand même aussi mais c'est peut-être le fait d'être dans une bibliothèque, on a vraiment un rôle aussi d'accompagnement des utilisateurs, pas seulement sur l'outil numérique, mais aussi sur tout ce qui est démarche en ligne. On essaie de les accompagner dans l'acquisition de compétences et de les aider dans des démarches qu'ils doivent faire et qu'ils ne savent pas faire tout seuls.
D'accord.
Et je crois qu'on est reconnu, je pense que les gens viennent à la bibliothèque aussi pour ce côté-là. L'espace public numérique, c'est un endroit où on peut se faire aider.
Mélissa, tu voulais compléter ?
Non, je suis assez d'accord avec ça. On ne fait pas l'accompagnement aux démarches parce que, justement, c'est délégué à la bibliothèque. Enfin, c'est délégué. C'est la bibliothèque qui s'en charge, quoi.
D'accord. Comme je le disais tout à l'heure dans l'introduction, on a la radio un salon web sur le site causecommune.fm, donc vous n'hésitez pas à nous rejoindre. Et donc vous avez une remarque de Marie-Odile qui nous dit « Vous faites de bien beaux métiers, mesdames ». Donc je salue Marie-Odile parce que c'est la personne qui va notamment transcrire vos interventions. Hein. C'est Marie-Odile de l'April, Marie-Odile Morandi qui s'occupe du groupe transcription à l'April. Donc ça c'était une présentation rapide un petit peu de ce terme générique, espace public numérique, mais qui recouvre effectivement différentes réalités. L'idée de cette émission aujourd'hui, et c'est une première émission sur le sujet parce qu'en fait on y reviendra évidemment avec sans doute d'autres personnes, c'est de faire un petit peu un tour d'horizon des activités que vous pouvez faire avec les types de publics, vos retours d'expérience, avec donc deux structures différentes, une donc la Cité des sciences et de l'industrie donc, qui est à Paris, à la Villette, et donc la bibliothèque francophone multimédia donc, qui est à Limoges. Alors d'abord, j'ai envie de vous dire, vous poser comme question, quel type de public accueillez-vous ? Est-ce que vous accueillez tout public, de 7 à 77 comme on dit, ou est-ce que vos structures sont réservées à un certain type de public ? Manuela.
Nous, en tant que bibliothèque municipale, forcément, on accueille tous les publics, quel que soit l'âge, quels que soient les besoins. Parce que c'est vrai que nous, au niveau du numérique, sur les initiations débutants, on va dire qu'on accueille beaucoup de personnes âgées, mais pas uniquement. On peut accueillir aussi des migrants primo-arrivants, des gens qui n'ont aucune formation, qui ont quitté le système scolaire assez tôt et qui n'ont pas de formation, pas de bagage en numérique et qui en ont besoin pour pouvoir travailler. Après, sur ce qui est accompagnement tous les jours, c'est pareil, ça dépend, on a vraiment de tout. Et puis sur les animations, on a des animations qui sont plus dédiées aux jeunes, du style coding goûté, ce genre de choses, ou pour les adultes, ça va être des ateliers thématiques d'acquisition de certaines compétences, ça peut être sur la photo numérique, ça peut être, bien protéger son ordinateur, des thèmes très variés. Donc on accueille tout public quand même.
D'accord, est-ce qu'il y a un âge minimal ou il n'y a pas d'âge minimal ?
Alors non, il n'y a pas vraiment d'âge minimal. La seule chose, c'est qu'il faut que les enfants en dessous de 7 ans soient accompagnés par un adulte. Nous, à la bibliothèque du centre-ville, parce que moi je suis responsable du pôle multimédia de la bibliothèque centre-ville, on accueille relativement peu de jeunes. On a plutôt un public adulte, sauf sur les animations. Par contre, mes collègues, parce qu'il y a aussi des espaces multimédia dans des annexes à Limoges, et eux, ils sont plutôt dans des quartiers et ils accueillent plus de jeunes sur de l'aide aux devoirs, sur des jeux, sur de la recherche Internet.
D'accord.
Voilà.
Et côté Carrefour numérique, Mélissa ?
Eh bien, on va accueillir pas mal de publics différents. Après, ça dépend, c'est pareil, ça dépend des moments. Par exemple, en ce moment, là, c'est les vacances scolaires, donc on a des animations qui sont un peu différentes de ce qu'on fait d'habitude, qui sont ouvertes à partir de 8 ans. Mais par contre, quand on parle du Fab Lab, on a un petit panneau à l'entrée qui dit que c'est accessible qu'aux personnes à partir de 15 ans. En réalité, les plus jeunes peuvent venir également, mais il faut qu'ils soient accompagnés d'un adulte ou d'une adulte. En fait, c'est les personnes à partir de 15 ans toutes seules, parce que on a des machines, il y a des outils, c'est un espace où il y a besoin d'être un peu responsabilisé. Et ensuite, c'est un espace qui est ouvert dans la Cité des sciences et de l'industrie, donc en fait, on a pas mal de publics de passage, et là, on va avoir, pendant les vacances, on a beaucoup de familles, par exemple. Dans le Fab Lab, donc il y a un espace de fabrication numérique, avec des machines à commande numérique et de l'outillage plus classique. Donc, c'est un atelier. Là, on va avoir, ça dépend des moments de la journée. On accueille des groupes. On a pas mal de groupes de jeunes qu'on accueille, ce qu'on appelle des groupes constitués. Ils viennent avec leurs animateurs et animatrices. Et puis ensuite, on a des personnes qui viennent individuellement pour du loisir, pour travailler.
D'accord. Dans les deux cas, je suppose que l'accès aux activités pour la plupart sont gratuites et puis il y a certains ateliers qui doivent être sur réservation et sur abonnement peut-être. Mélissa ?
Alors tout est gratuit dans les activités qu'on propose. Il y a certaines initiations qui sont, il faut s'inscrire. On n'a pas de système d'abonnement, à part pour une machine, mais c'est un point de détail. Et on essaye au maximum de pas demander quand même de réserver à l'avance, notamment pour les ateliers des vacances où en fait c'est un peu c'est souvent sur un coup de tête. Donc,
que les gens viennent, en fait.
Voilà, c'est ça.
D'accord. Et côté bibliothèque francophone multimédia ?
Alors nous, effectivement, tout est gratuit aussi, mais par contre, nous, on demande une inscription pour ce qui est atelier. Et les animations, ça dépend, mais si le nombre de places est limité, parce que on a des ateliers où effectivement on va pas pouvoir prendre plus de 6 ou 8 enfants, dans ces cas-là, on prend aussi une inscription. Mais bon, je pense qu'il y a moins de passages aussi. C'est pas comme la Cité des sciences. Donc, non, nous en général, pour les animations, sauf si vraiment c'est des animations où on peut accueillir beaucoup de public, là où on ne demande pas d'inscription, mais sinon, on demande des inscriptions pour les ateliers aussi.
D'accord. Clairement, j'invite les personnes qui nous écoutent à aller sur les sites donc, du Carrefour Numérique. Donc, c'est cité-science.fr et vous retrouverez le lien directement parce que sinon l'URL est beaucoup trop longue. Et côté BFM, c'est bfm.limoges.fr et vous retrouverez toutes les activités. On ne va pas forcément toutes les détailler aujourd'hui. On va rentrer dans certaines, notamment les ateliers et puis, comme Milsa en a parlé tout à l'heure, du Fab Lab et aussi des événements. Alors, certains événements qui sont récurrents, soit annuels, soit mensuels. On va peut-être commencer par le bel début, en fait. Les postes en libre accès, notamment la bibliothèque francophone multimédia. Donc, il y a des postes qui sont en libre accès pour sans doute faire des démarches, pour se balader sur Internet. Quelle est la place du logiciel libre dans ces postes en libre accès?
Ben, ces postes, déjà, ils sont sous un système GNU Linux. Donc soit on a des postes sous Debian, on a des postes sous Ubuntu, et les logiciels qui sont dessus sont tous des logiciels libres, du navigateur jusqu'au logiciel de bureautique, logiciel de traitement d'images, on n'a que du logiciel libre sur nos postes d'accès libre.
D'accord. Est-ce que côté Cité des Sciences, il y a des postes en accès libre de même principe? Ou je me souviens plus.
Alors, au Carrefour Numérique, parce que pour le reste, la bibliothèque, c'est particulier.
Alors, on va dire au Carrefour Numérique.
Ouais. Donc, au Carrefour Numérique, on a des postes qui sont en accès restreint. En fait, ils sont en accès libre, mais pour les personnes qui viennent concevoir des fichiers pour les utiliser au Fab Lab.
D'accord.
Donc, c'est techniquement pas tout le monde. Il tourne sur un double boot, donc Windows et Ubuntu.
Alors un double boot, on explique, ça permet en fait de démarrer la machine soit sur un environnement, soit sur un autre, donc soit sur Microsoft Windows, soit sur un environnement libre.
Voilà, et en l'occurrence, nous c'est Ubuntu. Et ensuite, par contre, quel que soit le système qu'on utilise, les logiciels qu'on met à disposition sont... Enfin, sur Windows, il y a les logiciels de base qui ne sont pas libres, mais les logiciels de conception qu'on utilise sont libres.
D'accord. Alors, on va revenir sur la partie conception. Est-ce qu'il y a des formations ou des initiations, des accompagnements sur les outils bureautiques de base, c'est-à-dire la bureautique, LibreOffice, le navigateur Internet, les courrielleurs? Est-ce que dans vos structures, vous faites ce genre de formation vraiment, on va dire, de base? C'est-à-dire que la personne qui ne connaît pas forcément l'informatique ou qui découvre, qui veut se former, donc une initiation basique. Manuela.
Oui, nous on propose un cycle débutant. Alors je dois avouer que le cycle débutant, on le propose, donc il y a découverte de l'ordinateur, et on propose quand même l'environnement Windows dans cette formation débutant, parce que c'est les gens après utilisent leur machine et en règle générale sont sous Windows. Par contre, dès qu'on aborde Internet, le traitement de texte ou éventuellement le tableur, on le fait sur LibreOffice ou sur Firefox.
Alors c'est donc des LibreOffice et Firefox installés sur Windows, c'est ça?
Oui, oui.
Alors c'est important à préciser parce que pour les gens qui découvrent le monde du logiciel libre, ces logiciels libres sont ce qu'on appelle multiplateformes, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent à la fois sur environnement Windows et pour certains sur environnement Mac, mais également sur environnement libre. Donc c'est une façon de découvrir facilement, en tout cas, sans changer son système, des environnements libres, que ce soit LibreOffice, VLC ou Thunderbird par exemple pour les courriers électroniques. Et ensuite, en cas d'une migration vers un système libre, on retrouve les mêmes outils. Donc ça, c'est effectivement important. Est-ce qu'à la Cité des Sciences, c'est ce genre d'animation, on va dire, de base, ou est-ce que vous ne faites pas ça? Alors, un Carrefour Numérique, je précise.
En fait, on ne le fait plus. Depuis que le Fab Lab et le Living Lab ont été créés, donc en 2013, tout ce qui correspond en fait à ce que fait Manuela actuellement, on ne le fait plus. On le faisait avant, mais maintenant, c'est terminé. Donc, l'initiation à l'informatique de manière générale et au logiciel libre, plus particulièrement, on ne le fait plus.
D'accord. Alors, je précise qu'il y a beaucoup d'espaces publics numériques, alors qu'ils soient labellisés espaces publics numériques ou qu'ils soient bibliothèques multimédia, qui font des initiations basées sur du logiciel libre, souvent avec un double amorçage dont on parlait tout à l'heure. Hein. Notamment, par exemple, en région parisienne, il y a la cyberbase de Saint-Denis, il y a Pierrefitte-sur-Seine avec l'Arobase, qui est une structure historique et qu'on aura sans doute l'occasion d'inviter. Donc, on retrouve souvent ce genre de pratique de découverte de l'informatique à partir de l'informatique libre. Alors, on va parler un petit peu des ateliers un peu plus au niveau au-dessus, on va dire, et notamment, on va commencer par le Carrefour Numérique, où vous faites beaucoup de choses. Donc, tu as cité tout à l'heure le Fab Lab. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est un Fab Lab et qu'est-ce qu'on y trouve dans ce Fab Lab?
Donc, Fab Lab, c'est une contraction de l'anglais Fabrication Laboratory, donc laboratoire de fabrication. Donc, ça, en gros, c'est un atelier, c'est un grand garage, on a plein d'outils. On a des machines notamment à commande numérique, c'est ce qui caractérise le Fab Lab, comme par exemple des imprimantes 3D, des découpeuses laser, une brodeuse à commande numérique. Et puis après, on a aussi de l'outillage manuel ou plus classique, donc l'outillage marteau, scie, etc. On a des machines à coudre qui, elles, sont tout à fait manuelles. Voilà, l'idée, c'est que l'espace, il est ouvert à tout le monde, donc avec les restrictions d'âge que je donnais tout à l'heure, pour venir apprendre à utiliser ces machines. comme c'est des machines à commande numériques, il faut pouvoir maîtriser un petit peu avant la partie numérique. Et en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des personnes qui viennent pour utiliser ces machines, mais justement, ça, c'est ça qui va leur servir de prétexte pour se mettre les mains dans le numérique. En fait, on n'a pas des gens qui sont déjà hyper calés en informatique. On a quelques-uns, mais globalement, les personnes qui viennent sont là pour apprendre quelque chose. Et la fabrication numérique est un prétexte.
D'accord. Alors, on va revenir sur l'explication tout à l'heure du lien entre les logiciels utilisés et les aspects matériels. Est-ce que, donc, à la BFM de Limoges ou ailleurs à Limoges, vous avez ce genre d'atelier, Manuela ?
Alors, pas pour l'instant. Mais le service est en train d'évoluer, comme je disais tout à l'heure. On est en train de refaire notre projet de service et on a prévu dans notre espace un petit Fab Lab. Mais vraiment un petit, parce que l'idée, c'est surtout de sensibiliser, de faire découvrir, pas forcément de développer d'énormes projets sur notre structure. Normalement, il devrait se mettre en place soit fin 2020, soit début 2021. Pour des questions de travaux, voilà, de commandes de matériel. Mais l'idée, c'est d'avoir en fait différents types d'usages dans notre espace. On a donc déjà actuellement l'accès à Internet et à des logiciels classiques avec de l'accompagnement aux usagers. On a ouvert récemment un espace jeux vidéo, mais axé sur le rétro gaming.
Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est le rétro gaming ?
Alors le rétro gaming, c'est le fait de jouer, d'éventuellement de collectionner des vieilles consoles de jeux, de jouer sur des vieux jeux.
D'accord.
Donc on a trois télés avec on a acheté des consoles qui émulent en fait les anciennes consoles et qui sont déjà préchargées de jeux. Donc on a une dizaine de consoles, ça fait à peu près 400 jeux. Et l'idée, c'est de faire découvrir la culture jeux vidéo. Puis de faire vivre cet espace aussi par des interventions sur tous les aspects du jeu vidéo, que ce soit la création à des aspects plus sociologiques.
D'accord.
Et donc le dernier espace, ce sera le Fab Lab avec un travail collaboratif, faire mettre en place un travail collaboratif et développer en fait l'idée du faire ensemble et du découvrir ensemble.
D'accord. Est-ce que ça correspond à une demande du public qu'on a entendu parler ou c'est vous en tant qu'animateur, animatrice qui avez décidé de proposer ce nouvel espace ?
Alors c'est plutôt nous, même si on a déjà fait quelques présentations les années passées sur les imprimantes 3D, sur Arduino, ce genre de choses. Donc du coup, on sent quand même que ça attire du public. Il y a un public pour ça. Donc c'est essayer d'utiliser tous les leviers en fait pour faire monter les publics en compétences. C'est un petit peu l'idée, quoi. C'est que les gens, c'est d'aider en fait tout le public à comprendre et pas seulement utiliser l'informatique. Voilà, sans savoir ce qui se passe.
D'accord. Alors justement, en parlant donc de Fab Lab, Mélissa, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne entre la partie logicielle et la partie matérielle et la place du logiciel libre dans le Fab Lab du Carrefour numérique ?
Comme on est dans une logique d'apprentissage et d'émancipation des personnes qui viennent chez nous au niveau de l'informatique, on a fait le choix d'utiliser des logiciels libres de manière à ce que, très basiquement, ces personnes puissent installer ces logiciels chez elles ou sur leur ordinateur portable, parce que en termes de configuration, les ordinateurs pour faire la conception sont pas dans le même espace que le Fab Lab lui-même, ce qui, quand on est dans une logique d'apprentissage avec les autres, est un peu problématique, parce que du coup on peut moins discuter. Donc le fait d'avoir des logiciels libres, déjà matériellement, c'est beaucoup plus simple s'ils peuvent les avoir sur leurs ordinateurs portables. Ça, c'est une première chose très matérielle. Ensuite, sur les machines elles-mêmes, il y a certaines machines qui sont des machines qui sont open source, pas libres, mais les imprimantes 3D qu'on a par exemple, elles sont open source, et donc on peut utiliser des logiciels libres pour piloter ces machines. Par contre, il y en a d'autres, les découpeuses laser, elles sont complètement propriétaires, complètement fermées, et donc le logiciel qui les pilote l'est aussi. Par contre, on a des utilisateurs qui se sont amusés à faire un petit script, un petit bout de code qui nous permet d'utiliser un logiciel libre qui s'appelle Inkscape, qui est un logiciel de dessin.
De dessin vectoriel.
Exactement. Donc on peut faire son dessin sur ce logiciel-là et en utilisant ce petit bout de code, l'envoyer directement au logiciel propriétaire qui pilote la découpeuse laser. Donc ça, ce petit bout de code-là qui nous facilite la vie avec l'espace tel qu'il est aménagé, on n'aurait pas pu le faire si on n'avait pas eu un logiciel libre à la base. Donc en fait, c'est ça notre objectif, c'est que ce soit simplement pour l'utilisation, ce que nos utilisateurs et utilisatrices ont besoin d'utiliser comme logiciel. Même si c'est juste ça, juste faire le dessin, c'est déjà bien, mais si en plus ça leur permet de s'emparer en fait de nos de nos logiciels, de nos machines, c'est encore mieux, parce qu'en fait, ils apprennent en faisant ces bouts de code-là. Ils apprennent comment ça fonctionne, ils peuvent transmettre à d'autres personnes. Donc, nous, c'est ça qui nous intéresse, c'est qu'un maximum de choses soient bidouillables, en fait.
D'accord. Est-ce que le terme bidouillable, donc la bidouillabilité, te parle, Manuela, dans tes pratiques ?
Oui, alors effectivement, peut-être, on a commencé un petit peu aussi sur certaines animations qu'on a pu proposer. On a vu que les gens, ils aimaient bien quand même bidouiller. Donc c'est aussi ça en fait. Nous, quand je parlais d'espace collaboratif tout à l'heure, c'est un peu ça. C'est que les gens essayent des choses, puis échangent entre eux et essayent d'avancer ensemble. C'est ce qu'on essaye de faire aussi un petit peu avec les coding goûtés, parce que les coding goûtés, on en faisait essentiellement pendant les vacances scolaires.
Est-ce que tu peux rappeler ce qu'est un coding goûté ?
Alors un coding goûté, nous, comme on le pratique en tout cas, c'est un moment où on a un groupe, alors nous c'est plutôt avec les enfants, donc on a un groupe et puis on leur propose une activité ludique autour de l'apprentissage du code, de la programmation, et puis y a un temps à la fin pour un goûter à partager tous ensemble.
D'accord. Alors j'en profite pour signaler qu'on a consacré une émission au coding goûté. Alors je n'ai pas la date en tête, mais vous retrouverez le podcast sur causecommune.fm et sur april.org. Et tout à l'heure, Mélissa parlait notamment des personnes âgées. On a consacré une récente émission sur la question des personnes âgées et du logiciel libre au début octobre. Pareil, vous retrouverez le podcast sur causecommune.fm et sur april.org. On va faire une pause musicale donc, et on va retrouver juste après nos invités. Nous allons écouter. Alors c'est un choix de Mélissa Richard. Alors c'est peut-être la troisième ou quatrième fois qu'on écoute ce morceau, mais on ne s'en lasse pas effectivement. C'est Eger de l'album Break a Leg par Stone from the Sky et on se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune.
Cause Commune.
venons d'écouter Eger de l'album Break a Leg par Stone from the Sky, disponible sous licence art libre, et nous avons interviewé Dimitri, je crois bien, si je me souviens de son prénom, il y a 15 jours, de Stone from the Sky, et vous trouverez les références sur le site de l'April, enfin les podcasts sur april.org et causecommune.fm. En tout cas, c'est de la très bonne musique, et merci Mélissa pour donner l'occasion d'écouter à nouveau ce morceau. Alors, je vais en profiter pour répondre au quiz de la première question du quiz. Donc, je vous demandais en début d'émission, lors de l'émission du 15 octobre 2019, nous étions avec le collectif Regards Citoyens. Vous connaissez sans doute les sites nosdéputés.fr et nossénateurs.fr proposés par le collectif. Et la question, c'est, sauriez-vous citer le nom de leur autre site qui facilite le suivi des travaux législatifs? Et bien, ce site, c'est lafabriquedelaloi.fr. Et je vous invite à aller voir sur ce site qui permet de suivre le suivi des travaux législatifs avec notamment l'évolution des textes, les amendements. Donc vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 FM en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Nous allons continuer notre discussion sur les espaces publics numériques à prendre dans le sens large et les logiciels libres, mais pas que le logiciel libre. Donc juste avant la pause musicale, Manuela, donc de la bibliothèque francophone multimédia, tu as prononcé le mot Arduino, et je n'ai pas réagi à l'instant, mais est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Arduino, à quoi ça sert ?
Ben, c'est une carte qui permet de programmer, en fait, permettre de faire de la domotique, c'est vraiment de l'électronique pour moi.
C'est une carte programmable, faut préciser.
Oui, c'est une carte programmable, oui, c'est ça. Nous, on avait montré, effectivement, pour l'utiliser en domotique, on avait tenté de faire un compteur pour nos propres besoins, mais on avait fait avec des usagers.
D'accord. En tout cas, c'est quelque chose qui est très utilisé. Alors, je crois que Carrefour Numérique, vous l'utilisez aussi, même si vous ne faites pas d'initiation. Mélissa ?
Oui, en fait, on prête des cartes et les composants qui vont avec, etc. Mais effectivement, on n'a pas d'initiation dédiée, en tout cas, plus sur la programmation de cette année.
Et donc, c'est des cartes matérielles, on va préciser, libres. Donc, vous allez sur un moteur de recherche et vous cherchez Arduino, vous trouverez les références. Juste aussi, avant la pause, Mélissa, donc, tu parlais du Fab Lab et notamment des aspects logiciels et matériels. Et avant l'émission, tu me parlais des outils de modélisation 3D, le fait que notamment vous aviez trois logiciels de modélisation 3D différents et pour des usages différents. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ?
Alors, on a donc effectivement trois, enfin, il y en a plus, mais nous, on utilise beaucoup trois logiciels de modélisation 3D libres, Blender, FreeCAD et OpenSCAD. En fait, la modélisation 3D, on peut y arriver par plusieurs aspects. Et dont trois aspects qui sont couverts par ces logiciels-là, donc ce qui permet de s'adapter en fait à la façon qu'on a de concevoir les choses. Blender, c'est un logiciel qui fait énormément de choses, mais dans le cas de l'impression 3D spécifiquement, en fait, on va manipuler l'objet directement. C'est-à-dire quand on arrive dans l'interface de Blender, on a un cube, et ensuite ce cube, on va le déformer en touchant directement à l'objet avec sa souris. Donc c'est vraiment du modelage à proprement parler. FreeCAD, ça va être plus une logique pour des personnes qui ont l'habitude, par exemple, du dessin industriel, c'est-à-dire qu'on va rentrer des cotes. Enfin, on ne modèle pas autant, je vais dire, que dans Blender. Et OpenSCAD, c'est dans une logique plus de code, une logique mathématique. Enfin, une logique, en fait, c'est un logiciel paramétrique, donc on lui donne une fonction et des paramètres. Donc si on veut un cube, on lui dit « je veux un cube », et entre parenthèses, de tant de millimètres de côté. Et on fait entrer, enfin, on rafraîchit la page, on lui demande un aperçu, et là, pouf, on a un cube qui apparaît. Et donc, on ne fait que taper du texte, en fait. Donc ça, c'est trois possibilités pour accéder à la modélisation 3D qui dépendent vraiment des gens. En fait, il y a des gens, le modelage, ça leur parle tout de suite. Il y en a d'autres qui ont une logique plus mathématique et qui, du coup, sont très contents avec un logiciel paramétrique, quoi. Donc ça, ça nous permet d'avoir une bonne palette à proposer à nos utilisateurs et utilisatrices.
D'accord. Et précisons que ces trois logiciels, hein, Blender, FreeCAD et OpenSCAD, sont des logiciels libres. Et on a parlé de Blender dans une précédente émission de Libre à vous, donc les podcasts sont disponibles, comme je le dis à chaque fois. Alors on va poursuivre notre discussion et on va, pour être sûr de ne pas oublier, on va passer à la partie événements. Parce que là, on a vu la partie atelier, certaines activités, mais une spécificité aussi donc, de la bibliothèque francophone multimédia et du Carrefour numérique, c'est les événements récurrents. Alors on va commencer par un événement important de la bibliothèque francophone multimédia par rapport au logiciel libre, c'est le mois du logiciel libre, qui a lieu chaque année en mars. Alors je ne sais pas depuis combien de temps, mais Manuela va nous le dire. Donc Manuela, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu c'est quoi ce principe de mois du logiciel libre à la bibliothèque francophone multimédia de Limoges ?
Ben en fait, le mois du logiciel libre, c'est un événement qu'on a mis en place en 2005, donc il y a quand même pas mal de temps. Et à l'époque, on devait le faire au mois de novembre. Je pense qu'on a changé à un moment donné pour que, en fait, l'événement ait lieu en même temps que la semaine du libre, qui était en ou libre en fait. Je sais
c'est
plus,
libre en fait, fait autour du 20 mars.
Au mois de mars. Donc du coup, on avait déplacé du mois de novembre au mois de mars pour profiter de la communication autour de cet événement et puis pouvoir inscrire nos propositions dans libre en fait. Au début, quand on l'a créé, c'était en partenariat avec une association d'utilisateurs logiciels libres locales. On avait décidé dès le début de faire un mois, en fait, avec différents types d'événements, des ateliers pour le public, donc des ateliers de découverte, parfois un petit peu plus poussés, et puis des événements un peu plus importants, avec généralement une conférence sur un thème autour des logiciels libres ou des ressources libres, et puis des présentations, voilà. Ça dépend des années, en fait. Et donc, on continue depuis 2005.
Et donc, cette année, si je me souviens bien, la conférence, c'était... j'essaie de vérifier aussi, mais peut-être que tu vas pouvoir me le dire. C'était une conférence de Stéphane Borsmeyer.
Oui, c'est ça, sur vie privée et Internet.
Et vous avez aussi affiché l'Expo Libre, donc, proposé par l'April, donc à la bibliothèque.
Oui. Et oui.
Donc, depuis 2005, vous faites ça. Et est-ce que votre public habituel vient à cet événement? Et autre question, est-ce que vous accueillez un nouveau public qui vient spécifiquement pour cet événement?
Oui, tout à fait. C'est oui pour les deux, en fait. Notre public est curieux, en général, donc ça nous permet de sensibiliser des personnes qui n'auraient peut-être pas été autrement pendant cet événement. Et ça nous permet aussi de faire venir des publics qui sont plus férus d'informatique, donc qui n'ont pas forcément besoin de venir à l'espace multimédia, mais qui, du coup, sont intéressés par ces problématiques et qui viennent.
D'accord. Alors, j'en profite pour signaler que Stéphane Borsmeyer a publié récemment un livre qui s'appelle Cyberstructure de l'Internet, si je me souviens bien.
Et qu'on c'était peu de temps avant qu'il vienne, oui.
D'accord. Et qu'on a reçu dans Libre à vous, et donc le podcast est disponible également. Livre tout à fait passionnant. Je vois que sur le site, donc de la version 2019 du mois du logiciel libre, il y a ce qu'on appelle des install parties, des fêtes d'installation. Alors, est-ce que tu peux expliquer ce qu'est une fête d'installation, ce qui me permettra de faire le lien ensuite avec le Carrefour numérique?
Alors nous, on le propose en partenariat avec deux associations, donc Alternative 87 et Pulco, qui sont des associations de promotion du logiciel libre, donc Alternative 87 sur Limoges et Pulco qui est plus sur la Corrèze. Et on accueille le public qui vient avec ses machines et pour qu'on l'aide, en fait, les personnes viennent pour qu'on les aide à installer un système GNU Linux sur leur machine. Alors, on a des personnes qui viennent simplement pour se renseigner, pour voir, qui ne sont pas encore prêtes à passer le pas, mais qui ensuite peuvent prendre contact éventuellement avec les associations pour le faire. Mais on a vraiment des gens qui font installer ce jour-là Linux sur leur machine. Cette année, en mars, on a accueilli 39 personnes sur cet événement. Donc ça fait quand même pas mal de personnes qui se sont intéressées à la question et qui sont vraiment prêtes ou qui ont passé le pas.
D'accord, très bien. Mélissa, donc Carrefour numérique de la Cité des sciences et de l'industrie, il y a un événement qui s'appelle le premier samedi, dans lequel il y a aussi une fête d'installation, mais pas que. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce premier samedi, comment ça se passe?
Alors, on va avoir plusieurs associations qui s'occupent finalement de cet après-midi-là. Donc, c'est le premier samedi du mois. On prête les espaces, on accueille. Dans les associations qui viennent, donc il y a Parinux, qui est l'association des utilisateurs de logiciels libres de Paris, Île-de-France. Donc eux, ils vont effectivement s'occuper de l'install party. Et ensuite, on va accueillir Wikimedia, qui va faire des initiations à la contribution sur Wikipédia, entre autres choses, mais c'est le gros de leur activité. On a Francilien qui vient également. Francilien, c'est un fournisseur d'accès associatif à Internet en Île-de-France. Eux, ils viennent parler de l'auto-hébergement, ils viennent parler de la brique Internet, donc un petit dispositif qui permet d'héberger ses propres services Internet chez soi.
Donc d'héberger un serveur web, son courriel par exemple.
Par exemple, son courriel, ouais, souvent c'est l'exemple qu'on donne. Et on a le bug, le Blender User Group, donc qui vient justement parler Blender. Alors ils commencent à être bien avancés dans les personnes qui viennent assister à cet après-midi-là. Du coup, avant, on se reposait un peu sur eux pour faire l'initiation qu'on n'avait pas forcément la possibilité de faire. Mais là, ils sont bien avancés. Et puis surtout, ils parlent pas que de fabrication numérique, ils vont parler aussi films d'animation, enfin toutes les possibilités de ce logiciel.
D'accord. Précisons d'ailleurs que Blender a publié récemment un nouveau film d'animation très court, 10-12 minutes, dont je ne me souviens plus du tout du titre, mais qu'on retrouve sur le site blender.org, et donc est fait avec l'outil de modélisation libre Blender. Et donc, le Carrefour numérique héberge quelque part l'événement, oui, c'est-à-dire propose l'accès. Donc, accès libre, pareil, comme tous les autres événements, et donc c'est organisé par des groupes locaux.
Oui, ils s'organisent entre eux, et nous, on leur donne l'espace, les moyens techniques. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais il y a quelques conférences, ça commence à se mettre, des mini-conférences aussi qui sont proposées par les bénévoles de ces associations-là. Et voilà, donc c'est quelque chose qu'on fait en collaboration depuis plus d'une dizaine d'années. Hein.
Alors, je précise d'ailleurs que dans la partie fête d'installation, et je demanderai à Manuela si c'est le cas aussi, il n'y a pas que sur ordinateur, on va dire, mobile, il y a aussi les téléphones mobiles, c'est-à-dire que l'installation, alors soit d'applications libres sur téléphone mobile, soit l'installation d'un système entièrement libre, presque entièrement libre, parce que c'est compliqué sur les téléphones mobiles, donc que ce soit réplicante ou Lineage OS, il y a aussi ces ateliers-là pour les personnes qui ne veulent pas passer le pas de le faire elles-mêmes ou qui ne peuvent pas acheter un téléphone qui est déjà préinstallé. Donc il y a cet aspect atelier. Et avant de passer la parole à Manuela, je vais répondre à la question, à la deuxième question, vu que c'est en lien justement avec le premier samedi. La deuxième question que je parlais tout à l'heure dans le quiz, c'était donc une de nos invités, donc en l'occurrence Mélissa Richard, travaille aujourd'hui au Carrefour numérique de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Et la question, c'était de quand date le premier événement logiciel libre d'importance à la Cité des Sciences. Ça date d'octobre 1998, et c'était organisé notamment par l'April et d'autres structures pendant une semaine. On avait appelé ça la semaine du libre, et j'en profite pour faire un petit coucou aux personnes qui étaient à l'époque à la Cité, et certaines y sont encore, donc Jérémy Nestel notamment, Pierre Riconneau et Thomas Séchet. Voilà, c'était il y a plus de 20 ans ce premier événement et ça se poursuit. Et tout à l'heure, quand Mélissa disait on essayait de calculer la date du premier samedi, c'est qu'après cet événement de la semaine du libre, on avait lancé les dimanches du libre. Ensuite, c'est passé au samedi. Donc voilà, c'est une longue histoire, le logiciel libre à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Donc Manuela, est-ce que dans vos fêtes d'installation ou est-ce que dans vos demandes du public, est-ce qu'il y a des demandes autour de la téléphonie mobile ou est-ce que pour l'instant c'est un sujet qui n'est pas traité?
Alors on peut avoir des demandes à l'espace multimédia et d'ailleurs il me semble que cette année on avait fait un atelier sur des applications libres sous Android qu'on avait animé, enfin que les animateurs de l'espace avaient animé eux-mêmes, mais pendant l'install party, non. Et je dois avouer que je ne sais pas trop si les bénévoles à des associations, on n'en a pas discuté encore avec eux, mais c'est vrai qu'on pourrait en discuter. Jusqu'à présent, nous, c'est vraiment sur du matériel PC, quoi.
D'accord. Alors, ta remarque par rapport aux groupes locaux est intéressante parce que ça me fait penser qu'il y a beaucoup d'espaces publics numériques, soit bibliothèques ou autres, qui s'appuient sur des groupes d'utilisateurs et d'utilisatrices locaux. Donc, évidemment, le Carrefour numérique avec notamment Parinux, vous avec Alternative 87 et Pulco. Et inversement, j'encourage les groupes d'utilisateurs et d'utilisatrices à aller voir ces espaces, que ce soit espaces publics numériques, cyberbase ou autres, pour proposer de la compétence. Alors, que ce soit de la compétence évidemment sur ordinateur de type PC ou sur téléphone mobile ou simplement sur des outils bureautiques. Parce que ce genre de partenariat est important et et tout le monde en profite en fait. Ça permet de sensibiliser et d'initier des gens à des pratiques collaborative. Et donc, ça fait combien d'années que vous travaillez notamment avec Alternative 87 et Pulco?
Alternative 87, ça fait depuis la mise en place du premier mois du logiciel libre, donc depuis 2005. Pulco, ça doit faire 2 ou 3 ans, je dirais. On les a rencontrés un peu par hasard, je sais plus, je crois que c'était sur une démonstration d'imprimante 3D qu'on avait organisée à la bibliothèque. Il y avait quelqu'un de Pulco qui était venu assister et du coup on leur a proposé de participer aussi à notre install party. Ça nous permet nous d'avoir plus de monde, donc d'accueillir plus facilement les usagers sur un temps qui est quand même très prenant parce que c'est vrai qu'installer sur une machine ça prend quand même du temps. Oui. Donc plus il y a de volontaires, de bénévoles, plus on peut accueillir de gens. Donc puis ça s'est très bien passé dès la première année. Donc voilà, on continue maintenant aussi avec eux.
D'accord. Super.
Mais c'est vrai que nous, on a un petit peu le souci d'être excentré, parce que c'est vrai que sur Paris, il y a quand même plus de ressources disponibles, je dirais, de personnes sur lesquelles s'appuyer, d'associations sur lesquelles s'appuyer. C'est vrai que nous, c'est un petit peu la difficulté, c'est que faut vraiment faire avec les gens qui sont autour, et parfois ça manque, parce que c'est vrai qu'il y a des choses qu'on aimerait faire, et on va pas forcément trouver les compétences autour, et les gens vont pas forcément vouloir venir jusqu'à Limoges pour participer à une démonstration ou à un atelier ou des choses comme ça.
Oui, tout à fait. C'est vrai que même Enfin, tout à l'heure, Mélissa parlait de la quadrature, mais souvent, la quadrature, Framasoft ou l'April, on est sollicité pour des interventions et on ne peut pas forcément être partout parce que voilà, Framasoft, ils sont beaucoup à Lyon et ailleurs, la quadrature en partie à Paris et l'April aussi. Et c'est pour ça que j'encourage vraiment les gens qui sont dans les régions à aller voir les espaces publics ou les bibliothèques pour proposer leurs services et pour l'aider parce que c'est comme ça qu'on progresse. Mais c'est vrai qu'à Paris, il y a beaucoup plus de ressources, on va dire, globalement. On va continuer un petit peu la discussion et peut-être aborder d'autres sujets, notamment d'autres activités. L'un qui n'est pas directement lié au logiciel libre, mais qui est dans la même philosophie. Mélissa, donc à la Cité des Sciences, j'ai vu que vous aviez un repair café pour apprendre à réparer des objets. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un repair café, s'il te plaît ?
Alors, en fait, repair café, c'est une association qui ne dépend pas du Carrefour numérique, qui est quelque chose de complètement à part, donc qui propose aux gens d'amener leur... alors souvent c'est sur des samedis après-midi, d'amener des objets à réparer. Ils ont des bénévoles, donc ils réparent ces objets. Et on a accueilli un repair café il y a... ça doit faire 3 ans maintenant, je crois, un premier repair café. Et de là, en discutant avec les bénévoles, on s'est dit que ça pourrait être intéressant d'utiliser le Fab Lab et de rester dans cette démarche d'apprentissage par soi-même et avec les autres en faisant de la co-réparation. C'est-à-dire qu'au lieu d'amener un objet qu'on fait réparer par quelqu'un, on vient apprendre à diagnostiquer une panne et à réparer des choses. D'ailleurs, pas forcément son propre objet. D'ailleurs, il arrive qu'on ait des sessions de co-réparation où on n'a pas d'objet à réparer parce que personne n'a rien amené. Les gens viennent pour apprendre, mais finalement, on n'a pas grand-chose à réparer à ce moment-là. Et donc, on fait ça les mardis. De 17h à 18h30. Alors là, c'est idéalement sur inscription, mais il y a toujours un petit peu de place dispo. Donc tous les mardis, sauf pendant les vacances scolaires de la zone de Paris. Donc voilà, donc l'idée, c'est de venir apprendre à réparer des choses. Une bouilloire, qu'est-ce que j'ai réparé, moi ? Mon ampli, voilà. Plein de choses. Tout ce qui est transportable, quoi.
Voilà, tout ce qui est transportable. Et en utilisant les ressources donc aussi du Carrefour numérique, notamment l'imprimante 3D.
L'imprimante 3D tourne beaucoup à ces moments-là, ouais.
Voilà, donc ce qu'on appelle la réparabilité qui est important. Je rappelle aux personnes qui nous écoutent qu'actuellement, il y a un projet de loi autour de l'économie circulaire qui va arriver à l'Assemblée nationale bientôt. Et je pense que mon collègue Étienne Gonu fera un point peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines par rapport aux amendements qui ont été votés en première lecture au Sénat. Mais la réparabilité est un point essentiel et la notion d'obsolescence, c'est d'obsolescence programmée aussi, malheureusement. On a consacré déjà une émission sur l'économie circulaire et l'obsolescence programmée. Donc pareil, les podcasts sont disponibles sur april.org et sur causecommune.fm. Manuela, est-ce que vous avez ce genre de demande ou ce genre d'atelier autour justement de la réparabilité ou est-ce que pour l'instant c'est quelque chose qui...
Non pas pour l'instant, mais bon, c'est pareil, ça, je pense que ça viendra quand on aura effectivement plus une partie Fab Lab et qu'on aura mis en place une espèce de petite communauté ou en tout cas des événements et réussi à attirer un public qui a envie de travailler ensemble sur ce genre de choses. Nous, l'idée, quand il y aura le Fab Lab, c'est vraiment d'avoir un espace, parce que bon, la partie Fab Lab, c'est vraiment un espace où il n'y aura que des machines, et puis à côté, on a un espace, juste à côté, on a un espace qui sera vraiment un espace de travail collaboratif. L'idée, c'est que les gens fassent en fonction de leurs envies, de leurs besoins, donc ça peut être effectivement pour réparer, mais ça peut être pour bricoler quelque chose de totalement nouveau, ça peut être simplement de l'apprentissage du code, ça peut être autour de la robotique, puisqu'on essaye pas mal de travailler cet aspect-là avec les enfants dans les coding goûter et on aimerait bien continuer, avec derrière toujours la sensibilisation au code et le fait de comprendre ce qui se passe et ce qu'on fait, quoi.
D'accord. Alors, Mélissa parlait des vacances. Là, on a les vacances scolaires qui sont identiques pour toutes les zones. Est-ce que donc vous avez des activités spécifiques dont vous souhaiteriez parler par rapport à ces vacances scolaires, Manuela ?
Nous aujourd'hui on avait comme on a ouvert l'espace Retro Gaming il n'y a pas très longtemps, on a fait un tournoi pour les 8-13 ans, un tournoi de Super Mario Kart sur des Super NES. Ils étaient contents. Et la semaine prochaine, on a proposé en fait aux enfants de participer à la décoration de l'espace. Donc ils vont participer à un atelier pixel art avec des perles à repasser et on essaye de leur faire comprendre le principe, enfin on essaye de combiner ça avec une sensibilisation au binaire. Donc il y avait deux propositions pendant les vacances scolaires pour les enfants.
D'accord.
On a fait aussi une Code Week. Si, on a fait quelque chose pour la Code Week samedi dernier.
Ah, attends, c'est quoi la Code Week ?
Énigme numérique. Ouais.
C'est quoi la Code Week ?
La Code Week, c'est une semaine de sensibilisation au code informatique. Enfin là, c'était en l'occurrence, ça a duré 15 jours. Mais c'était, c'est un événement européen. Et donc, nous, on s'est inscrit dedans pour un parcours d'énigmes numériques qui mêlait, donc c'était une sorte d'enquête, en fait, à faire en famille, et qui mêlait, ça, il fallait qu'ils traduisent du binaire. Il y avait un petit programme à faire pour faire avancer des robots Timio qui permettaient de découvrir d'autres indices. Et dernière étape, c'était avec une carte touchboard qui permet de faire des sons en reliant des objets avec des fils électriques et en programmant des sons à l'avance. Et donc voilà, tout ça leur permettait de découvrir un livre qu'il fallait protéger des robots.
D'accord. Mélissa, tu me disais tout à l'heure avant l'émission que dans les parties vacances scolaires, tu avais un atelier sur les femmes scientifiques et techniciennes, c'est ça ?
Oui, c'est un jeu de chronologie. On a des fiches, il faut replacer dans l'ordre chronologique les femmes scientifiques et techniciennes à travers les époques. C'est un jeu qu'on a adapté et l'adaptation est sous licence libre, elle est téléchargeable sur notre site. Et donc on fait deux ateliers pendant les vacances, j'ai plus les dates exactes, mais autour de ce jeu-là. Et puis on a deux autres ateliers, un truc autour des comment utiliser les ressources du Fab Lab pour rendre des jeux de société accessibles. Alors là, on s'est plutôt focalisé sur les personnes aveugles ou malvoyantes.
Donc des personnes en situation de handicap.
Ouais, d'accord. Voilà. Mais okay. Là, on était spécifiquement sur le handicap visuel, mais du coup, il y en a d'autres. L'idée, c'est de se mettre un peu ensemble. Enfin, c'est de voir ce qu'on a déjà pu faire et puis de réfléchir avec le public sur comment on pourrait faire autrement. Et on a un dernier atelier autour de la réutilisation de sacs plastiques pour faire des petites pochettes pour protéger des carnets, par exemple, des passeports, des choses comme ça.
D'accord, excellent. Petite dernière question, parce que la fin du sujet approche. On a diffusé donc de la musique libre tout à l'heure. Est-ce que vous avez des actions, des activités autour donc de la musique, ou plus précisément de la musique libre, donc soit au Carrefour Numérique ou à la BFM? On va commencer par le Carrefour Numérique.
Alors, on en a eu, je pense que ça va revenir, notre collègue qui est féru de musique est actuellement en congé paternité. Donc voilà. Mais on a eu des initiations à Audacity, et puis au moment de la fête de la musique, souvent on essaye d'avoir des activités autour de la musique. Ouais. Et donc du coup, comme on utilise des logiciels libres, ça va avec.
D'accord. Et côté bibliothèque francophone multimédia de Limoges, Manuela ?
Nous, on a une borne en fait de contenu libre. Il y a notamment de la. Alors les gens peuvent récupérer en fait sur clé USB du contenu libre. Donc ça va d'une distribution Linux à des livres numériques ou à de la musique libre. Donc on a ça et on a en projet, mais là c'est un petit peu. Bon, on n'a pas trop le temps, mais on va pas tarder à développer une bibliobox pour permettre, pareil, la récupération de contenu libre par Wi-Fi.
D'accord.
Les usagers puissent récupérer des contenus libres. Donc oui, on travaille aussi cet aspect-là.
Ok, écoutez, super. Est-ce que vous avez un mot de conclusion, une annonce à faire sur ce sujet-là ou autre, Mélissa Richard pour le Carrefour Numérique?
Eh bien oui, prochain gros événement, l'Ubuntu Party, pour découvrir le système d'exploitation Ubuntu le 16 et 17 novembre au Carrefour Numérique.
Et normalement, nous y serons présents pour une conférence autour de l'émission. Et j'en profite pour saluer Charlotte et Olive qui animent l'émission Dissonance sur Radio Cause Commune le lundi. Et de ton côté, Manuela ?
Nous, en gros événement, ça sera le prochain mois du logiciel libre qui aura lieu au mois de mars 2020.
D'accord. Écoutez, voilà. J'espère qu'il y aura du monde. En tout cas, je vous remercie toutes les deux de votre présence. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un lien particulier entre l'APRI et le Carrefour Numérique de la Cité des Sciences et d'Industrie, parce que c'était le premier gros événement qu'on a organisé, c'est au Carrefour Numérique. Et depuis, la place du logiciel libre s'est étendue et très largement. Et puis, Limoges, qui fait donc depuis 2005, notamment le mois du logiciel libre. Et puis en plus, à titre familial, j'ai des liens avec Limoges. Donc, je suis très content de votre intervention. Donc, c'était Manuela Gernert, qui est responsable du pôle multimédia de la Bibliothèque francophone multimédia de Limoges. Merci Manuela de ta participation.
Merci à vous.
Et Mélissa Richard, donc médiatrice numérique au Carrefour Numérique, Cité des Sciences et de l'Industrie. Merci Mélissa.
Merci à toi.
Bonne journée à toutes les deux et on va faire une pause musicale. Nous allons écouter All the Regrets par Loïc Bredolez. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune.
Cause commune.
93.1.
D'écouter All the Regrets par Loïc Bredolez, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Nous allons passer au sujet suivant. Alors le sujet suivant, c'est la chronique Jouons Collectif de Vincent Calam, qui est bénévole à l'April et qui m'a envoyé le thème du jour. Et le thème du jour, c'est Google est ton ami.
Alors oui, quand j'ai envoyé ce sujet, Isabella, l'équipe de l'émission, Isabella m'a demandé en plaisantant si je n'avais pas oublié le point d'interrogation à la fin de ma phrase. C'est sûr que la volonté de Google et de ses comparses d'être présents partout dans notre vie, des téléphones aux voitures, en passant par les assistants domestiques qui nous écoutent toute la journée, fait que le mot « ami » dans le cadre de « Google est mon ami » nous fait plutôt évoquer le titre du film « Marie, un ami qui vous veut du bien » que le titre du livre « L'ami retrouvé ». Cependant, j'avais pas la volonté d'être ironique dans le choix de mon titre, enfin, pas trop. En fait, je pensais plutôt à une époque où Google n'était pas encore devenu Alphabet, qui est le nom de la maison mère actuelle, et où il n'était encore que le moteur de recherche qui a fait sa célébrité. À cette époque, il y a plus de 10 ans, Google et ton ami n'étaient pas une plaisanterie sur Google lui-même, mais plutôt une pique qu'on utilisait pour taquiner son interlocuteur.
Alors peut-être préciser pour les personnes qui ne connaissent pas que Harry, un ami qui vous veut du bien, en fait, c'est un film en 2000 où Michel retrouve par hasard un ami d'enfance prénommé Harry. Et Harry va s'insinuer progressivement dans la vie de Michel et va se mettre à éliminer toutes les personnes qui, selon lui, peuvent nuire à l'épanouissement de Michel. Et à l'inverse, L'ami retrouvé, c'est un livre de Fred Ullman qui raconte la forte amitié entre le narrateur, fils d'un médecin juif, et un jeune aristocrate pendant la montée en puissance d'un régime nazi en 1932 à Stuttgart. Alors pour revenir donc au thème, la plaisanterie Google est ton ami, qui était une pique, comme tu disais, pour taquiner son interlocuteur, à quelle occasion utilisait-on cette expression ?
Alors très souvent, c'était dans les forums ou les listes de discussion d'entraîne, quand une personne posait une question dont la réponse se révélait être à portée d'un seul clic ou de quelques mots-clés. Et souvent, la bonne âme qui lui répondait, malgré tout, le faisait en rajoutant « Google est ton ami », histoire de rappeler à la première personne qu'elle aurait pu faire l'effort de faire la recherche elle-même. Moi-même, dans mon cadre professionnel, je pense souvent à cette phrase « Google est ton ami » quand on me pose une question, mais je ne le dis pas, parce que là, mon but n'est pas de taquiner ou de mettre à l'aise mon interlocuteur. Parce que je sais que là, je vais souvent trouver la réponse en faisant une recherche sur Internet. Alors cependant, moi, pour la défense des personnes qui posent ce type de questions, il faut quand même rappeler que chercher, ça prend. Ce ne sont pas les documentalistes qui me contrediront. Toutes les réponses ne se trouvent pas du premier coup. Hein. Quand je fais une recherche, parfois nécessaire d'affiner la recherche quand il y a trop de résultats sans rapport avec la question qu'on avait en tête. Et puis, bon, quand le sujet est technique, il faut aussi savoir souvent la traduction en anglaise de ce qu'on cherche, car il y a de fortes chances que la réponse se trouve que dans cette langue.
D'accord. Ouais. Et les moteurs de recherche, en fait, restent une porte d'entrée majeure aujourd'hui sur Internet. On peut peut-être mettre le point d'interrogation avec Google est ton ami, non ?
Oui, oui, surtout si on se place de l'autre côté, non pas celui de l'internaute qui circule sur Internet, mais plutôt sur celui des gestionnaires de sites. Moi, je m'occupe du développement technique de plusieurs sites de ressources documentaires. Il y a quelque temps, j'ai reçu un appel angoissé du responsable d'un de ces sites qui avait vu les statistiques de fréquentation s'effondrer du jour au lendemain. Et ça s'est effondré parce que plus aucune visite ne venait d'une recherche Google. Bon, alors, au final, on s'est rendu compte que le problème venait de chez nous, c'était un certificat de sécurité non renouvelé. Mais c'est vrai que pendant quelques temps, nous avons craint d'avoir été mis sur la liste noire par Google sans pouvoir en repérer la raison. Surtout qu'aucun contenu particulier n'avait été mis en ligne au moment de la chute. C'était un vendredi en milieu de journée, donc sans raison. Et c'est vrai que pour les sites que je suis, les statistiques de fréquentation sont inclaquables. Plus de 80% des visiteurs arrivent via un moteur de recherche. Et parmi eux, plus de 90% viennent de Google. Donc là, effectivement, pour ces sites, ne plus être présent sur Google, c'est pratiquement la mort numérique.
Alors tu parles de mort numérique, est-ce qu'il y a un espoir face à ce monopole?
Oui, non, bien sûr. Après, on existe toujours sur Internet, même si on a moins de fréquentation, hein, c'est pas non plus dramatique. Simplement, c'est plutôt, c'est plutôt vis-à-vis des bailleurs de fonds ou des choses comme ça que ça peut poser problème d'avoir des mauvaises statistiques. Mais évidemment, nombreux sont ceux qui s'interrogent sur cette situation. D'autres moteurs de recherche existent et tentent de se faire une place. Hein, citons le dernier né qui est Quant, une initiative française. Alors, je trouve ce qui est intéressant, c'est que du point de vue du logiciel libre, je dirais que le problème, c'est pas tant le logiciel lui-même et l'algorithme. Bon, Google a son propre algorithme et des moteurs de recherche libre existent comme Lucene. Le problème, c'est tout simplement l'infrastructure nécessaire pour faire tourner un tel moteur, à la fois pour fournir des réponses rapidement et indexer toutes les pages de la toile en permanence, qui sont un nombre incommensurable. À titre de comparaison, là, récemment, l'encyclopédie Wikipédia a fait une campagne de dons, comme elle le fait régulièrement, rappelant que l'infrastructure pour héberger une telle encyclopédie a un coût. Je pense pour un moteur qui serait libre et sans publicité, il faudrait, pour financer son infrastructure, une collecte de dons, je pense, bien supérieure même à celle de Wikipédia, et nous en sommes encore loin. Alors moi, je pense qu'une des pistes, en attendant, ça vaut aussi, pour ne pas être dépendant de ces moteurs de recherche, quels qu'ils soient, d'aussi de réfléchir à des modes d'accès alternatifs à l'information, hein, quitter peut-être le réflexe de juste taper dans sa barre de recherche. Je pense à la diffusion via des réseaux sociaux libres, et puis pourquoi pas penser à une nouvelle génération, une nouvelle forme des portails Internet. Hein, c'est un concept qui fleure bon les années 90 et qui ont été balayés par l'efficacité de Google, mais je me dis que c'est peut-être un chantier à reprendre ou à repenser pour justement essayer de perdre aussi ce réflexe de la recherche.
Réflexe de la recherche qui est aussi renforcé par le fait aujourd'hui que la plupart des gens confondent navigateur web et moteur de recherche, parce qu'en fait, quand ils lancent un navigateur web, que ce soit navigateur de Microsoft ou Firefox, leur premier réflexe, c'est de taper dans la barre de recherche en haut, et en fait, ils pensent finalement que le navigateur web et le moteur de recherche, c'est exactement la même chose.
Oui, d'ailleurs, l'interface même a évolué, parce qu'avant, il y avait deux champs différents, un champ pour taper l'adresse et un champ pour taper la recherche. Et sous des prétextes
de simplicité,
à mon avis fallacieuse, on a une confusion complète donc des actions là-dessus. Donc c'est effectivement les outils eux-mêmes nous poussent à agir là-dessus en recherche. Alors je parle pas même des assistants personnels où là c'est carrément je pose une question à l'oral et un algorithme est censé me trouver l'information.
Assistant personnel qui aujourd'hui enregistre les conversations. Donc maintenant, quand on va chez des amis, il faut se demander s'ils ont un assistant personnel pour demander qu'ils soient déconnectés pour avoir une discussion tranquille.
Voilà, alors là, c'est encore un autre aspect, mais voilà, il y a toujours le piège de la simplicité. Effectivement, les amis qui vous veulent du bien, qui veulent vous simplifier la vie, qui veulent vous vendre des produits qui répondent à des besoins que vous n'aviez pas avant et qui font naître ces besoins, sont toujours suspects. Il faut toujours se poser de la question s'il n'y a pas une idée derrière ou s'il n'y a pas un loup derrière.
Donc finalement, c'est pas en fait les assistants personnels ne devraient pas s'appeler Alexa ou je ne sais quoi, ils devraient en fait s'appeler Harry.
Voilà, je pense que...
En référence au film, donc à Harry, un ami qui vous veut du bien, entre guillemets, on pourrait mettre. Bon, en tout cas, merci Vincent, c'était donc la chronique de Vincent Calam, Jouons Collectif. Je te souhaite une belle journée, puis au mois prochain.
Au mois prochain.
Alors, on approche de la fin de l'émission, nous allons passer à quelques annonces. Alors, quelques annonces. Tout à l'heure, Mélissa Richard a annoncé l'Ubuntu Party de Paris des 16 et 17 novembre, donc au Carrefour numérique de la Cité des sciences et de l'industrie. Il y a toujours l'appel à conférences, ateliers et stands, donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site ubuntu-paris.org, je crois, et pour proposer une conférence, et sinon les sites sera en référence sur le site de l'April, april.org, et sur le site causecommune.fm. Dans les annonces, nous avons parlé il y a quelques mois du documentaire La bataille du libre de Philippe Borel. Eh bien, il y a une campagne de financement pour participer à la traduction en anglais de ce documentaire, donc La bataille du libre. Donc pareil, les références sont sur le site de l'April et sur le site de la radio. J'en profite pour signaler qu'il y a deux projections cette semaine de La bataille du libre. Une à Montélimar, dans la Drôme, ce soir. L'autre à Lamastre le 23 octobre, donc mercredi 23 octobre 2019. Donc Lamastre, c'est en Ardèche. Les références sont sur le site de l'agenda du libre, agendadulibre.org.
Non, juste sur la bataille du libre, il y a une projection aussi à Paris le 6 novembre à la FPH 38 rue Saint-Sabin. Je rajoute que c'est sur l'agenda du libre.
Alors, c'est sur l'agenda du libre, donc 6 novembre, donc à la FPH dans le 11e, et je le annoncerai évidemment dans une prochaine émission Libre à vous. Dans les autres événements, le forum PHP, donc PHP c'est un langage de programmation web, se déroule à Paris les 24 et 25 octobre 2019, donc dans le 14e arrondissement. Tous les autres événements, vous les retrouverez sur le site de l'agenda du libre, agendadulibre.org. Donc notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission, donc Noémie Berger, Mélissa Richard, Manuela Gerna-Hert, Vincent Calam. Aux manettes de la régie aujourd'hui, Patrick Creusot. Vous retrouverez sur le site web de l'April, april.org, et sur le site de la radio causecommune.fm, toutes les références utiles ainsi que les moyens de nous contacter pour nous faire des retours, pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Également, toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse courriel libreavous@april.org. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 29 octobre 2019 à 15h30. Notre sujet principal portera sur VLC, le célèbre lecteur multimédia libre dont le logo est en forme de cône de chantier. Alors, on parlera du logiciel, de ses fonctionnalités, mais aussi de l'histoire du projet avec Jean-Baptiste Kempf. La semaine prochaine, ce sera donc la 42e édition de Libre à vous. Alors, ce sera l'occasion de faire des clins d'œil au célèbre livre « Le guide du voyageur galactique » de Douglas Adams. Donc, n'hésitez pas à lire ou relire avant l'émission ce livre. Vous verrez peut-être la référence à 42, mais en tout cas, nous essaierons de rendre hommage au guide du voyageur galactique. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 29 octobre 2019. Et d'ici là, portez-vous bien.